Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec toute l'équipe de Lionel Rosso pour ce beau match qu'ont livré les Français et les Portugais. On s'est régalé quand même pour celles et ceux qui aiment le foot. Un très très beau match. Et puis maintenant, on va essayer ensemble de passer cette heure et demie de la meilleure manière qui soit. En vous écoutant, chers amis, puisque, comme vous le savez, c'est votre moment à vous, cette libre antenne, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Vous le savez, demain, je vous l'ai dit tout au long de la semaine, horaire normal pour demain soir. Nous serons ensemble à partir de 22h30 et nous aurons l'occasion donc de passer 2h30 puisque on fait une petite pause dans le football et que les matchs ne reprendront que ce week-end. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une bonne nouvelle de passer 2h30 ensemble demain. Mais en attendant, vous le savez, vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Si vous voulez intervenir à l'antenne, eh bien, vous mettez votre numéro de téléphone et vous précisez bien que c'est pour intervenir à l'antenne. Et puis bien évidemment, vous composez le 39-21 comme quand vous en avez envie, si vous avez bien évidemment envie de me parler. Voilà, j'espère que vous avez passé autrement une belle journée, que tout va bien pour vous, que vous êtes maintenant tranquillement dans l'endroit que vous avez choisi pour passer cette heure et demie avec nous. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et à 23h33, nous accueillons Suzanne au 39-21. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Alors avant que nous commencions...
Je vous en prie.
Avant de commencer cette émission, je voulais préciser que nous avons eu des nouvelles de Valérie et de sa maman Janine, et que demain soir, il y a de grandes chances que nous échangions avec le maire de Chef Boutonne, qui est donc le petit village où habitent Janine et Valérie. Donc nous entretiendrons avec monsieur le maire demain soir. En attendant, Suzanne, d'où nous appelez-vous ?
De Vendée.
De Vendée.
De la Roche-sur-Yon. Je suis à Roche-sur-Yon, c'est le plus près. On est à mi-chemin entre Nantes, pour situer également, et La Rochelle.
D'accord. Quel temps vous avez en Vendée, là ?
Alors là, depuis 4-5 jours, pas beau du tout.
Oui, c'était le retour de l'automne, là.
Bon, on a évité les grosses tempêtes, nous, on ne va pas se plaindre, parce qu'on n'a pas eu des orages violents. Mais bon, c'est pas le bon temps, quoi. C'est redescendu. Mais par contre, autrement, on a eu très chaud depuis un moment, parce que nous, on est dans un microclimat ici.
Vous êtes bien là-bas, hein ?
Ah oui. Moi, j'habite en dessous, là. En dessous, là, je vous ai dit La Roche, mais c'est Chantonnay, vous voyez, par là.
D'accord.
Chantonnay, en dessous. Et donc, par là, il fait tout. C'est vraiment un microclimat ici. Il fait très chaud, ouais, l'été. Puis on a beaucoup de soleil. Donc, voilà.
Bon, très bien. Qu'est-ce qui vous amène, Suzanne ?
Eh bien, moi, j'ai un problème. J'ai un frère, disons. C'est pas moi qui ai le problème, hein. C'est mon frère. Mais bon, ça me concerne quand même, parce que c'est mon frère.
Oui.
Donc, il a des acouphènes avec hyperacousie.
Avec.
Donc, ce qui fait que c'est plus violent encore que ceux qui ont des acouphènes simples, quoi. Je crois que ce sont les cils qui sont usés, abîmés. Enfin, je ne sais trop quoi vous dire à ce sujet, mais bon, c'est un problème très embêtant.
Vous m'avez dit avec hyperacousie, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, hyperacousie.
Et qu'est-ce que l'hyperacousie ? Qu'est-ce que l'hyperacousie ?
Pardon ?
Qu'est-ce que l'hyperacousie exactement ?
Justement, peut-être que vous pouvez voir pour, avec vos collègues là, pour avoir plus de détails. Je sais que c'est, entre autres, les cils sont abîmés. Donc les bruits sont amplifiés encore. Enfin, c'est une histoire de bruits qui sont plus forts que. Et il peut avoir mal aussi en même temps. Quand les bruits sont trop forts, il a mal. Voilà. Après, je ne sais pas trop. Hein, je ne vais pas vous donner trop de détails à ce niveau-là. Mais je sais que c'est un peu ça, quoi, qui se passe à chaque fois.
D'accord. Et donc, vous m'appelez pour lui.
Pardon ?
Vous m'appelez pour lui, c'est ça ?
Voilà, oui, c'est pour lui que je vous appelle. Parce que comme il ne peut pas téléphoner, il ne peut pas... Déjà, tout à l'heure, j'ai envoyé un SMS, il me répond juste qu'il va très mal. C'est tout, j'ai pas eu d'autres détails, on doit s'appeler demain. C'est lui qui m'appellera parce que moi, je l'appelle pas. On communique par SMS beaucoup. Et de temps en temps, il m'appelle par téléphone. Il ne peut pas téléphoner.
Oui, oui. Parce que les acouphènes sont vraiment... C'est vraiment très pénible. Hein.
Oui, pour lui, oui, c'est terrible.
Et ça ne se soigne pas.
Il habite... en plus, je dirais qu'ils sont empoisonnés avec le Rivotril. Parce qu'il prend du Rivotril, qui est un médicament qu'on doit prendre qu'une quinzaine de jours, normalement.
Enfin, oui, oui.
Au maxi 3 semaines, je ne sais plus. C'est un médicament pour les gens qui font des crises d'épilepsie. C'est même pas... Mais bon, il le prend pour se calmer, parce qu'il dort avec ça. Ça fait des années, ça fait peut-être 20 ans qu'il a Rivotril. Là, il est en train de l'arrêter, justement, tout seul. Alors, pas très bon de l'arrêter tout seul, déjà. J'ai dit, ne fais pas ça, mais bon. Et donc, ce qui fait dire qu'il s'est empoisonné avec ça. Il y a quelques temps, je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que j'en ai marre de voir tout ce qui va pas pour lui. Je suis allée voir sur Internet, effectivement, il a des problèmes d'yeux. Ça peut être lié à ça. Il a des problèmes de muscles, ça fait perdre tous les muscles. Enfin, vous voyez, il s'est empoisonné avec cette connerie de médicaments, quoi.
Alors, le Rivotril, oui, c'est vraiment très mauvais. Très mauvais.
Voilà.
C'est très mauvais parce que très vite, vous avez une dépendance. Je connais parce que je connais quelqu'un, enfin deux personnes qui se sont soignées à ça et qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en sortir, en fait. Parce qu'il y a une accoutumance terrible, c'est très, très fort. J'en avais des acouphènes, moi, imaginez-vous. Et donc, j'ai eu la chance d'être soigné par un professeur qui est spécialiste ici des cordes vocales et donc de l'oreille aussi. Et je sais que il m'avait prescrit ça, ce médicament. Mais,
ah oui, c'est incroyable.
Mais en fait, il me l'avait prescrit 3 gouttes tous les 5 jours. Vous voyez tellement c'est fort, en fait.
Il a pris, je crois, jusqu'à des 15-20 gouttes par jour.
C'est le souci, c'est ça, parce qu'en fait, je ne sais pas. Pourquoi je ne saurais vous dire pourquoi, quel effet ça fait, mais en tout cas, je sais que en ayant 3 gouttes tous les 5-6 jours, et pendant un mois hein, à peu près, même 3 semaines, ça agit de manière conséquente sur mes acouphènes, vraiment.
Ah oui, oui, parce que ça calme, c'est ça, non ?
En tout cas, depuis ça n'a plus rien à voir. J'en ai encore de temps en temps. Mais ils vont, ils viennent et ils sont beaucoup moins gênants qu'avant, en fait.
On n'est plus les a en permanence, quoi.
Mais oui.
En plus, il y a très longtemps qu'ils portent des bouchons en permanence, alors ça non plus, c'est pas très bon. Ça empêche la circulation, enfin ça empêche... Les oreilles sont faites pour respirer, quoi. Donc, voilà. Allô ?
Oui, je vous entends. Bon, du coup, en fait, il les a toujours et ça ne le soigne pas vraiment, ce médicament.
Ça ne soigne pas déjà. Ben non, c'est juste pour... il met ça parce qu'il a peur des bruits, quoi. Il ne peut plus supporter les bruits, donc de plus en plus. Mais il les a mis trop vite, ces bouchons. Je pense qu'il a une phobie du bruit très rapidement parce qu'il est anxieux. Et puis, il s'est mis à porter les bouchons. Et puis, de plus en plus. Et puis, maintenant, ils n'enlèvent même plus la nuit, quoi. C'est ça.
Parce que ces bouchons, en fait, vous pensez que c'est... Enfin, moi, je ne pense pas que ça soit bon hein, pour les acouphènes.
Moi, je pense que... j'en parlais j'ai une sœur qui est infirmière. Hein, on en parlait. Elle me dit, effectivement, les cils usés, les cils abîmés, ben, c'est ça. Les oreilles, il n'y a plus de circulation, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Voilà, ça détruit tout, quoi.
Ben, c'est surtout que, en fait, je pense à l'effet que doivent faire les bouchons. C'est-à-dire qu'ils doivent entendre vraiment plus ces acouphènes, parce que quand on met des bouchons comme ça, c'est comme si on s'enfermait un peu dans notre corps, vous voyez ?
Bah oui, c'est ce qu'on ressent, mais vous aussi, vous avez essayé les bouchons ?
Ah non, pas du tout.
Non,
pas du tout. Ah non, je pense que même je n'aurais pas...
Je
n'aurais pas aimé ça. Parce qu'en fait, on n'entend plus que ce qui se passe à l'intérieur de nous avec des bouchons.
Ben oui. Ben lui, il est allé par des bouchons progressifs. Ça veut dire qu'il a eu des bouchons de différentes puissances, quoi, pour couper les bruits. Donc voilà.
D'accord.
Des bouchons qui sont spéciaux, qui fait faire à sa taille.
D'accord.
Enfin, adapté à son oreille, quoi.
Bon, ah. D'accord. Et donc, vous m'appeliez pour lui, pourquoi exactement ?
Alors, bon, bah justement, il y a plein de choses, finalement. Bon, il a des travaux. Déjà, l'urgence, c'est qu'il a des travaux en août. Il ne va pas pouvoir rester dans sa maison. Donc, est-ce que... Mais il aurait plutôt besoin, là c'est d'être pris en charge. carrément, il lui faudrait un lieu de vie, il lui faudrait s'il y avait des gens qui avaient des solutions pour, je sais pas moi, un lieu de vie qui soit, parce qu'il veut pas aller dans les hôpitaux, parce qu'il y a du bruit. Une fois, il n'allait pas bien. Je lui ai dit, écoute, Jack, je t'envoie une ambulance. C'était un week-end, j'arrivais pas. Il avait tellement mal aux oreilles parce que les acouphènes étaient très violents.
Oui, le pauvre.
Et j'avais trouvé donc un médecin de week-end. Enfin, personne ne pouvait se déplacer. Et il y en a un qui me dit, écoute, on va lui envoyer une ambulance. Il me dit, oh ben non, si on m'envoie une ambulance, je me fous en l'air. Parce que l'ambulance, il y a du bruit, les portes, enfin, la sirène. Enfin, bon,
il ne supporte plus du tout le bruit.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il ne veut pas aller à l'hôpital à cause de ça, parce qu'il dit les portes, les sonnettes, les machins, les trucs. C'est terrible. Moi, quand je l'ai ici à la maison, il faut bloquer les portes avec des tissus, les portes de mes placards, enfin tout, quoi. Ouais, c'est...
Mais alors,
En fond, je recherche également. Donc, je donne mes recherches. Hein, après, si les pistes viennent. Donc, pour août, s'il y avait un lieu de vie, même une maison, je ne sais pas, moi... quelqu'un qui peut lui louer un petit coin, quoi, chez lui.
Qui le prendrait chez lui ?
Un petit coin, je ne sais pas, quelquefois, pas une petite pièce, enfin, une pièce de vie qu'il peut avoir avec de l'eau, enfin, avec un nécessaire, quoi. Il y a des gens qui ont des petites maisons comme ça, qui sont vacantes l'été, par exemple. Donc, mais qu'ils soient toujours dans un lieu sans bruit, pour qu'ils puissent quitter son appartement en août, parce qu'il va avoir des travaux en août dans son immeuble, et il ne pourra pas partir, quoi. Il faudra qu'ils partent. Donc voilà, il faut trouver un endroit. Moi, je ne peux pas le prendre. Il y a des camions, j'ai du bruit chez moi. Donc voilà.
Mais en fait, le prendre chez...
Par exemple,
contre un loyer ou quelque chose,
oui,
ou...
qui peuvent lui louer pour l'été, enfin pour le mois d'août.
D'accord, donc pour lui louer quelque chose pour le mois d'août.
Ah oui, voilà, c'est ça. Mais quelquefois, ça peut être pas très grand, vous voyez. Ça peut être une pièce avec... Il va pas être exigeant, hein. Du moment qu'il est au calme...
D'accord.
Un endroit où il puisse se faire à manger, quoi, quand même. Voilà.
Mmh.
Voilà.
Mais écoutez, très bien, l'appel est passé, Suzanne. On vous tiendra au courant.
Hein, si... d'autres appels.
Bien évidemment.
Oui. Parce que je cherche une maison également pour lui. Une maison au calme.
D'accord.
mais pas où exactement. J'ai toujours annonce à passer.
Où exactement, en fait ?
Alors, justement, il habite Beaupro. Et donc, il a une fille qui habite... Alors, il m'a pas donné le bon nom l'autre jour. Je sais que sa fille, elle habite... Alors, attendez. Elle habite Saint-Amand, à 20 km de Beaupro. Alors, les gens qui sont là-bas peuvent reconnaître le lieu. Hein. Saint-Amand, et je ne sais trop quoi. Parce qu'il me disait Saint-Amand-sur-Sèvre, mais non, Saint-Amand-sur-Sèvre, c'est dans les Deux-Sèvres. Ça ne correspond pas. Donc, c'est un Saint-Amand qui se trouve à 20 km de Beaupro. Donc, éventuellement, s'il y avait quelque chose de libre entre les deux... Enfin, autour de Beaupro, quoi, sinon, quoi. Voilà, dans cette région. Quelque chose de, alors une maison calme, de plein pied, parce qu'il ne peut plus, il a plus de force. Hein. Il peut plus descendre les escaliers. Quand il les descend, après, et qu'il remonte pour faire ses courses, après, il a un mois sans bouger chez lui. Vous voyez? Il est rendu au bout, quoi.
Oui.
Donc, il faut une maison vraiment dans le calme. Alors, pas de chien, pas de mobilette à côté, pas de camion, pas d'engin agricole.
Oui, pas de bruit, quoi. Pas de bruit.
Pas de bruit.
Mmh.
Donc, si quelqu'un a des pistes...
Ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est la campagne. Hein. Il faut quelque chose à la campagne.
Ce que je dis, un hameau, par exemple, dans un hameau, avec des maisons quand même pas trop éloignées, parce que quand même, il a 70 ans, hein, il y aurait quelque chose qui est... Enfin, qu'il ne soit pas trop isolé quand même, quoi. Qu'il y ait des maisons à côté.
Très bien, mais écoutez, l'annonce est passée, en tout cas, hein, oui. Suzanne. Et puis, ben, on vous dira, bien évidemment, Florian... vous tiendra au courant s'il y a...
Non, également, éventuellement, avec, si qu'il y ait qu'il y ait des doubles vitrages, au moins des doubles vitrages, parce que pour protéger des bruits, on voit les avions, enfin, etc.
Alors, ouais. Vous savez que Anne, au 739-21, nous dit que les acouphènes peuvent parfois provenir des vertèbres.
Oui, je sais.
Et donc, est-ce qu'il a vu un chiropracteur, nous demande Anne.
Il a déjà vu beaucoup de gens.
D'accord. Oui. D'accord.
Oui. Mais il a eu des accidents de voiture très jeune et tout. Pour moi, oui, il y a quelque chose qui est à ce niveau-là.
Très bien. Mais écoutez, on vous tient au courant, Suzanne, en tout cas, d'accord ?
D'accord. Donc, comment ça se passe alors pour me tenir au courant ?
Je vais vous repasser Florian et il va vous expliquer, d'accord ? Vous ne raccrochez
d'accord,
pas. Okay. Je vous souhaite une bonne soirée, Anne. Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h47, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez nous appeler au 3921, vous le savez, et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure, si vous avez envie de me parler de votre quotidien, de me parler de quelque chose que vous traversez. N'hésitez pas. On accueille Juliette maintenant, 3921. Bonsoir Juliette.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Juliette?
De Paris.
De Paris, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Juliette?
Eh bien, je suis grand-mère de deux petites filles. Et il se trouve qu'au mois de février dernier, ces deux petites filles ont été placées en foyer. Je ne l'ai pas appris directement. Je l'ai appris par une amie de la famille et j'ai su qu'il y avait eu un jugement où mon fils, sa compagne, donc les deux parents des deux petites filles, et les petites filles étaient présentes. Et suite, si j'ai bien compris, les parents se disputent voulant se séparer. Bon, la situation familiale est très tendue. Au point, sans doute, je suppose que le juge a décidé que les deux petites filles devaient être placées en foyer.
Oui.
Et alors, évidemment, quand je l'ai appris, ça m'a beaucoup choquée qu'on n'ait pas cherché à voir s'il y avait de la famille, en plus simplement des parents. Il y avait, cette famille, moi en particulier, qui aurait pu les accueillir. Vous voyez, ça m'a vraiment fait peur.
Ben oui, oui. Même vous, non? Vous auriez peut-être pu les accueillir, non?
Oui, tout à fait, parce que je suis très proche d'elle physiquement. Il se trouve que là, les parents m'avaient un peu exclue, mais je suis partie souvent en vacances avec elle. La dernière fois que je les ai vues, c'était au mois d'août dernier.
Pourquoi vous avez-il exclu comme ça, dites-moi?
Alors, ça, c'est une histoire plus longue. Des tensions familiales. Entre mon fils et moi, ou sa compagne, mon fils ayant, je dois dire aussi des problèmes psychologiques, mais ayant tendance à les reporter sur moi, d'ailleurs les reporter aussi sur sa compagne. Je suis dedans, ça m'est difficile de dire qui a tort, qui a raison.
Oui, quel type de problème psychologique en fait, Juliette? Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que c'est...
Je ne suis pas médecin non plus, et son psychiatre qui pourtant m'a... parce qu'il avait fait, il y a un an, il avait fait de l'hôpital psychiatrique, et oui. À ce moment-là, j'ai eu la possibilité de parler avec son médecin, parce que vous savez quand même, il est adulte, et donc le médecin ne s'adresse pas à moi.
Non, bien sûr,
À certains moments où justement, mon fils et moi, nous étions en conflit, on avait même pensé qu'il fallait peut-être une thérapie familiale, mais mon fils ne l'a pas voulu, il ne voulait absolument... par exemple, il me reprochait très souvent de gérer sa vie. Mais par ailleurs, il venait aussi vers moi en me disant ça ne va pas, je veux me séparer de ma femme, je veux ceci, je veux cela.
Donc il vous a inclus dans les problématiques de son couple.
Voilà, c'est ça. Et côté médecin, au contraire, quand quelquefois j'ai envie justement de me rapprocher du psychiatre qui le suivait, pour même savoir comment moi je devais agir vis-à-vis de lui.
Oui.
Le psychiatre dans ce cas dit non, attendez, votre fils est adulte, c'est pas avec vous que je parle, moi je m'occupe de mon patient et c'est tout.
D'accord, donc oui, mais ça c'est normal, comme vous le dites, c'est le secret professionnel là.
Oui, je comprends, mais d'un côté, ça n'aide pas à arranger les relations.
Non, bien sûr, bien sûr.
Que mon fils soit d'accord pour que, par exemple, qu'on suive une thérapie familiale, qu'il avait fallu, par exemple. Hein,
Votre fils ne vous a pas dit de quoi il souffrait? Il ne vous a pas expliqué?
Oh, si, il a dit plein de choses, et des choses qui sont... Chaque fois, je suis obligée de lui dire, mais écoute, tu te trompes. Alors, je peux respecter son ressenti, ce que je lui ai dit. Parce qu'il me dit, tu me traitais mal quand j'étais petit, il aurait peut-être même dit que j'avais frappé, ce qui est absolument faux. Enfin bon,
J'ai bien peut-être donné des fessées de temps en temps, mais enfin, c'était encore autorisé. Je ne dis pas que ce soit bien, mais... Enfin, bon, je veux dire, je ne pense pas du tout que ce soit un enfant qui... mais bon, il l'a mal ressenti. Ce que je pense plutôt, c'est qu'il a touché à de la drogue à une certaine époque.
Oui.
Et qu'il voit les choses de travers, quoi. C'est souvent ce que je dis. Je dis, mais écoute, tu te trompes, tu vois. C'est pas ça la réalité. Bon, il aurait, par exemple, tendance à être peut-être jaloux de ses frères et avoir l'impression qu'il faut absolument qu'on l'aide. Il dit, tu es ma maman, tu dois m'aider. D'ailleurs, je l'ai aidé. Mais je l'ai aidé financièrement parce que il n'arrive pas à se débrouiller non plus au niveau de son travail. Vous voyez, ça va pas bien au niveau du travail, ça va pas bien au niveau du couple.
Oui, il est instable, bon, en fait.
Oui, enfin, je répète, je suis pas médecin, je peux pas dire. Sa compagne lui dit qu'il est bipolaire. Vous savez que c'est un mot qui est assez à la mode.
Oui, oui.
Bon, c'est possible. On peut dire aussi qu'il retourne sa veste suivant les personnes qu'il voit. Et moi, sa maman, bon bah, il me reproche beaucoup de choses, sans doute parce que je suis sa maman. Je suis convaincue que c'est à la fois de la haine proche d'un trou. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a un cordon qui n'est pas coupé. Je peux pas l'expliquer moi-même. Je sais que moi-même, en revanche, j'ai consulté auprès d'un psychologue et qu'il m'a été conseillé de ne pas m'en mêler parce que j'ai beau être sa maman, ben, il est adulte et même s'il fait des erreurs dans sa vie, ben, il faut en fait que je le laisse faire des erreurs. Alors, où ça ne va plus, à mon avis, c'est quand les petites filles en pâtissent.
Oui, bon, alors les petites filles ont été placées parce que visiblement, les parents se disputaient beaucoup.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu un signalement? Vous savez alors, comment ça s'est passé?
Pas. Je ne sais pas du tout. C'est possible qu'il y en ait eu. Il y avait déjà eu des violences de mon fils sur sa compagne. D'ailleurs, une fois, j'avais dû aller témoigner au commissariat de police. Et là, donc, mon fils avait donc donné mes coordonnées. Où il était resté en garde à vue une nuit. Je ne sais plus où j'en étais, pardon.
Il a été en garde à vue, m'avez-vous dit.
Votre question, c'était pour les... Bon, donc je ne sais pas quel est l'élément déterminant...
Déclencheur, en tout cas.
Qui a déterminé ce passage devant un juge. Est-ce que des voisins se sont plaints? Est-ce que je ne sais pas. Peut-être à l'école, il s'est passé des choses. Personnellement, j'avais déjà vu depuis plusieurs années, j'avais déjà rencontré les assistantes sociales des écoles de mes deux petites filles parce que je m'inquiétais de savoir comment ça se passait aussi à l'école. Enfin, je pensais du moins qu'il était important d'avertir les écoles et peut-être les professeurs, ça c'était le rôle des assistantes sociales de la situation familiale qui n'allait pas. Et bon, et donc, mais ce qui m'a là depuis justement ce passage en foyer, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que moi j'ai immédiatement su quel était le juge qui s'était occupé de l'affaire, et j'ai envoyé immédiatement une lettre recommandée pour me faire connaître, pour dire mais elles ont une grand-mère.
Et que vous a-t-il répondu, le juge ?
Eh bien justement, c'est ça le problème, c'est que je n'ai aucune réponse. J'ai envoyé une première lettre recommandée. Une semaine plus tard, je vais moi-même au tribunal de grande instance en me disant, parce que j'étais persuadée qu'après envoyer une lettre recommandée à un juge, il répondait, je ne sais pas, le lendemain dans la semaine.
Ouais, enfin, ça ne va pas aussi vite.
Après, j'ai toujours pas de réponse.
Voilà, six mois ça. Après.
Oui, ben nous sommes, c'était depuis février dernier, ça fait tout à fait 6 mois, mais et alors depuis, il s'est passé, j'ai quand même réussi. J'ai pu parler aux responsables du foyer où sont mes petites filles,
oui.
Parce que j'ai trouvé ce foyer.
Quel âge ont-elles, vos petites filles, en fait ?
Alors, elles ont 12 ans et 6 ans, enfin, bientôt 13 et 7. Mm-hmm.
C'est dramatique hein, pour elles, qu'elles se retrouvent au foyer oui, comme ça. C'est,
Bien sûr, bien sûr. Alors, il m'a été dit que je crois qu'au moment où elles sont passées en foyer, au moment du jugement, on leur a demandé, on leur a expliqué pourquoi elles y allaient. Elles auraient dit oui, qu'elles étaient plutôt satisfaites d'y être. Enfin, bon, elles ont bien vu. Je pense qu'elles ne supportaient plus non plus que de voir leurs parents se disputer et se taper dessus. Ça devait être bon. Et on a, je suppose qu'on leur a bien expliqué pourquoi on les séparait de leurs parents. Il a été dit d'ailleurs que les parents auraient une expertise psychiatrique, de façon à ce qu'on sache qui, et puis qu'il fallait bien entendu qu'ils se séparent, et qu'il, de façon à ce qu'on, à déterminer qui, lequel des parents pourrait les garder par la suite, en avoir la garde, et ceci dit, si j'ai bien compris, les affaires judiciaires ont l'air de prendre pas mal de retard, bon, c'est...
Il est certain que dans cette histoire, il y a le temps de la justice hein, et malheureusement, ça risque de prendre encore quelques mois afin de savoir, si j'ai bien compris, quels parents auraient la garde des deux petites filles. Mais on va continuer à en parler ensemble, Juliette. Vous restez avec moi, on va marquer une légère pause et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
D'accord.
Europe 1, il est minuit. Et votre libre antenne se poursuit et vous retrouverez l'info dès demain, chers amis. Nous sommes toujours avec Juliette. Juliette qui nous raconte ce soir que ses petites filles ont été placées en foyer maintenant il y a 6 mois. Vous n'étiez pas au courant, hein, Juliette. Comment l'avez-vous appris d'ailleurs qu'elles ont été placées ?
Je l'ai appris par une amie de la maman, une amie dont j'avais gardé les coordonnées. Enfin, nous avions échangé nos coordonnées. Quelques temps avant, une amie qui avait une petite fille du même âge que l'une de mes petites filles, et donc nous étions restés en relation, et c'est vrai qu'elle aussi, elle s'inquiète pour le couple et pour les petites filles, hein, comme moi. De ce fait-là, nous étions restés en contact, et c'est elle qui m'a annoncé ça, sinon je ne saurais toujours rien.
C'est-à-dire que votre fils ne vous a absolument pas tenu au courant de cette situation ?
Non, 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 non.
Il ne vous parle plus depuis 6 mois ?
Là, oui, non. En réalité, il ne me parlait plus déjà... il me parlait quand même de temps en temps. Quand il en avait envie, quand il avait besoin
d'accord,
de moi.
D'accord, d'accord. Et votre belle-fille ?
Des hauts, des bas, mais souvent, là en ce moment, rien du tout, alors que nous étions quand même partis en vacances ensemble
l'été dernier. Oui.
Mais ça, ce départ en vacances s'était passé d'une façon, pas très naturelle. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé à partir avec les petites filles, comme ça m'est arrivé d'ailleurs avec mes autres petits-enfants, de partir seulement avec les petits-enfants, pas les parents. Et là, justement, le problème, c'est que les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir si je peux partir avec les enfants. Or, pour partir avec des enfants, il faut que les deux parents soient d'accord.
Soit OK, bien sûr.
Voilà. Et tantôt mon fils me disait « c'est d'accord », la maman est d'accord, et puis à la dernière minute, j'apprenais que finalement, la maman ne l'était pas. Alors, je dis à mon fils, écoute, c'est pas possible, moi, je veux pas enlever mes petites filles à leur maman. Et d'un autre côté, alors elles avaient plus de vacances, donc c'était problématique, parce que je savais qu'elles aimaient bien partir avec moi. Et donc, la dernière fois, il se trouve que pour que les parents se décident, et en particulier la maman se décide à les laisser partir en vacances avec moi, j'ai proposé à la maman de venir avec nous.
Et elle d'accord, a dit, oui. Ah bah, super,
assez
très bien.
Étonnée.
Ouais.
Elle a dit oui. Elle a eu une attitude pendant les vacances pas désagréable, mais assez effacée, c'est-à-dire assez curieusement. Par exemple, les petites filles, c'est toujours à moi qu'elles demandaient quelque chose. Est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela ?
D'accord. Et est-ce que ça s'est bien passé entre votre belle-fille et vous ?
Alors, bien, je m'imaginais qu'on aurait eu le temps de plus se parler parce oui. que ça faisait des années que par moment on arrivait à se voir le temps d'un repas ou oui, juste le temps d'un échange d'enfants quand bon, il y a quelques années, mes petites filles venaient le mercredi, bon, les parents venaient les chercher ou les voilà. Et à ce moment-là, souvent, alors que les petites filles étaient là, la maman avait envie de me parler de problèmes. Il y a ceci qui ne va pas. Le papa devrait se faire soigner. Mais je disais, c'est pas le moment de on peut pas se parler vraiment quand les petites filles sont à côté. C'est bon. Et je lui disais, écoute, si tu veux, on prend rendez-vous, on se voit ou bon, on échange des mails et. Et là, on discute vraiment de voir ce qu'on peut faire ou pas faire. Et ça, ça n'arrivait jamais. C'est... Bon, donc, je ne sais pas à quoi en penser de la maman.
Vous ne savez pas à quoi en penser, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'elle pense de vous, en fait.
J'ai entendu de tout, c'est-à-dire que... quelquefois, c'est mon fils qui m'a dit non, mais elle ne veut pas du tout que tu prennes les filles, ou elle, ça ne lui plaît pas, ou bon, je lui écrivais un mail en lui disant voilà, on préfère ceci, cela. Elle rapportait le mail à mon fils qui ensuite venait se plaindre à moi en disant quoi, tu lui as dit ceci, tu lui as dit cela. Valait mieux que je m'en mêle pas. La seule chose que je voulais faire, c'est pouvoir continuer à garder un contact avec mes petites filles, parce que je sentais qu'en plus, pour elles, ça leur faisait beaucoup de bien d'être dans un cadre équilibré, où on avait des horaires pour passer à table, pour faire ceci, pour faire cela. Je sentais bien qu'elles étaient heureuses avec moi, quoi.
Et vous n'avez pas senti que vous déclenchiez la jalousie des mamans?
Si vous voulez, bon, vous savez que les relations belle-mère-belle-fille sont souvent pas évidentes. Je suis pas sûre parce que je ne sais pas vraiment ce qu'elle me disait ou non. Il y a eu des moments où elle m'a dit des choses désagréables, mais que je sentais pas très, enfin bon, bien entendu, je trouvais pas justifié.
Vous avez réagi à ça ou vous avez laissé couler?
Je lui ai dit qu'elle se trompait. Oui. Se trompait, mais ça c'est un petit peu comme quand mon fils me reproche quelque chose.
Bon, en tout cas, de ce que vous me racontez, il y a quand même une relation. Difficile que cela soit avec votre fils et avec votre belle-fille. En tout cas, on a l'impression que vous nous parlez de deux êtres qu'on peut difficilement capter. Vous voyez, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils pensent lorsque vous nous en parlez. On a l'impression que ce sont des gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui sont fuyants en fait dans leur relationnel.
Oui. Pour mon fils, je ne sais pas, parce qu'il m'a dit beaucoup de choses très franchement à moi, mais des choses très, très désagréables. Le seul problème, c'est que je lui ai dit, mais tu te trompes, c'est pas vrai. Et pour moi, bon, ça va pas. Il est d'une certaine façon malade. Mais comment prouver à quelqu'un qu'il voit la vie à travers un prisme gris? Ce que je peux dire, c'est qu'à un moment, par exemple, j'ai voulu, peut-être que le reste de la famille, en particulier ses frères, les frères de ce fils-là, interviennent un petit peu, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, parce que ça a créé une situation conflictuelle entre les frères.
Entre les frères, oui.
Oui.
Et il est très compliqué, hein, votre fils, visiblement.
Oui.
En tout cas, je pense que vous m'appelez pour savoir que faire avec vos petites filles, je suppose. En tout cas.
Et surtout, là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de normal ou d'anormal à ce qu'un juge ne réponde pas du tout à un courrier, ne me disent rien, parce que donc j'ai envoyé en tout donc une première lettre tout début février, juste 8 jours après avoir su cette affaire. En n'ayant pas de réponse, je suis allée 8 jours après donc au tribunal de grande instance, en espérant peut-être avoir un rendez-vous. Quelqu'un m'avait dit « prépare une lettre, parce que si tu n'as pas de rendez-vous, au moins tu déposeras la lettre ». C'est ce que j'ai fait, impossible de demander à rencontrer la juge. D'ailleurs, on me dit que non, un juge convoque, hein. On ne demande pas un rendez-vous à un juge, hein. C'est lui qui convoque s'il a envie de rencontrer la personne. Et puis, encore peut-être un mois après, j'ai à nouveau envoyé une lettre commandée en disant déjà que je m'étonnais de ne pas avoir de réponse. Alors, j'ai eu aussi un contact avec la personne qui est référente, qui je crois, si j'ai bien compris, une assistante sociale.
À l'ASE, sans doute. Une responsable de l'ASE.
Oui, c'est ça. Non, c'est ça. À l'aide sociale à l'enfance, oui, c'est ça. Alors, cette personne... que j'arrivais pas à joindre moi-même, parce que le numéro de téléphone de l'aide sociale à l'enfance est impossible de les avoir. La seule chose par laquelle on peut communiquer avec eux, c'est en remplissant un formulaire de contact.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai quand même eu une réponse et que l'on m'a donné le nom de la juge qui s'occupait de l'affaire, alors que j'ai su aussi le nom de la référente que je ne pouvais pas joindre moi-même, mais qui m'a appelée. Qui m'a consacré d'ailleurs 1 heure au téléphone, très, 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 très gentiment, très à l'écoute, me posant beaucoup de questions sur la famille, sur mon fils, sur justement ses frères et tout ça, et qui m'a dit qu'elle allait faire remonter les informations auprès de la juge. Elle m'a dit d'éviter de l'appeler au téléphone parce que je pourrais pas, elle n'aurait pas le temps de me répondre, mais elle m'a donné son adresse mail pour pouvoir éventuellement
converser avec elle.
Voilà.
Oui, d'accord.
J'ai envoyé quelques mails, 2 ou 3, pas plus, vous voyez, quand même en 5 mois, parce que je voulais quand même pas la harceler. Toujours, jamais, aucune réponse. Aucune réponse. Et voilà, donc...
Depuis, c'est silence alors, radio, en fait.
Exactement. Alors, d'accord. Les seules personnes qui me répondent très, très gentiment et très professionnellement, ce sont les personnes responsables du foyer, que j'appelle plutôt les week-ends, parce qu'on m'a dit qu'elles étaient plus présentes les week-ends, que c'est plus facile de répondre au téléphone. Elles me consacrent bien du temps. Et elles-mêmes me disent qu'elles ne trouvent pas normal que ni la juge ni la référente ne me répondent. Et je comprendrais qu'on me dise, écoutez, vous êtes là, il y a tant de dossiers, vous êtes le 15e dossier, on peut pas vous répondre maintenant, je ne sais pas. Ou qu'on me dise, non, on peut absolument pas vous voir parce qu'étant donné les relations de tension entre votre fils et vous, c'est pas possible. Mais je suis étonnée qu'il n'y ait aucune réponse, voilà, rien du tout.
Oui, non, c'est très étonnant.
Je ne sais pas où elle a... quelles sont les normes. Alors, j'ai eu aussi quand même... À un moment, je me suis dit, il faut peut-être une avocate, un avocat.
Oui. Carlotta, au 739-21, nous dit que, d'habitude, une mise en temps dans un couple... n'entraîne pas le placement d'enfants. Or, je pense que ces deux petites filles ont été placées parce qu'il y a eu des scènes de violence ou en tout cas des cris. Quelque chose s'est passé et a alerté sans doute le voisinage ou quelqu'un qui a dû faire un signalement sur le fait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cet appartement ou cette maison. Et qu'il y avait deux petites filles qui étaient témoins de scènes de violence entre votre fils et votre belle-fille, sans doute. Moi, je pense qu'il faudrait que vous preniez, un avocat ou une avocate, Juliette.
Alors j'ai rencontré une avocate, mais c'était au tout début j'avais déjà envoyé la première lettre recommandée au juge. Et donc, a priori, l'avocate avait l'air de dire que tant qu'on n'avait pas la réponse, on ne pouvait pas tellement avancer. Et donc, j'ai pas bien compris, à la suite de ce premier rendez-vous avec l'avocat, de ce qu'elle pouvait obtenir de plus, en dehors de ce que ça pouvait coûter. mais sans être sûre d'aucun résultat, je me suis dit, face à un juge, avec ou sans avocat, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà.
Je pense qu'un avocat va essayer de relancer, c'est son métier, hein. Il va faire des courriers. Je pense que quand même, on ne peut pas vous laisser sans nouvelles de vos petites filles, hein. Il y a une filiation importante, et qu'à un moment, il faut que la justice vous réponde, parce que, encore une fois, vous avez des droits, et il faut que ces droits soient respectés. D'autant plus que vous évoquez la possibilité que ces deux petites soient accueillies soit par vous, soit par des membres de la famille. Ça sera toujours mieux pour elles qu'elles se retrouvent dans un cadre familial plutôt que dans un foyer, sans vouloir bien évidemment critiquer quoi que ce soit ce soir, puisque visiblement elles étaient d'accord. Je vais vous dire, de toute façon, si vos deux petites filles étaient d'accord pour être placées dans un foyer, ça c'est l'assistante sociale qui vous l'a dit ou c'est le foyer qui vous l'a dit ?
Non, c'est l'ami qui m'a téléphoné, qui m'a dit, qui m'a averti, et l'ami qui était l'ami de la maman, et selon la maman, elles avaient été interrogées par la juge, mais bon, on leur a proposé ça, elles ne savaient pas ce que c'était.
C'est 12 ans, on ne sait pas ce que c'est qu'un foyer.
Bien entendu, non, elles savaient simplement qu'elles allaient sortir de peut-être ce qu'on peut appeler l'enfer familial.
C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est que leur réaction a été sans doute de dire oui, on veut bien aller, on va avoir la paix dans leur petite tête.
C'était ça.
Mais ce qui est dommage, c'est que dans tout ce qui s'est passé, c'est qu'on n'ait pas pensé à vous faire appel, en tout cas à vous mettre au courant, parce que les deux petites auraient été mieux chez vous, visiblement, de la manière dont vous me racontez vos vacances en août dernier.
Oui.
Je pense que ces deux petites, elles avaient l'air de bien se sentir avec vous. En tout cas, le relationnel était très bon. Donc, c'est là où je ne comprends pas, même que l'ASE n'est pas, qu'il n'y ait pas une démarche pour voir comment ces petites filles peuvent être accueillies par, votre fils a des frères. Enfin, bon, je ne sais pas.
Oui, peut-être que cette démarche va arriver.
Elle peut arriver en plus. Hein. Elle peut arriver.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne dise rien. Parce que, effectivement, d'après aussi une autre amie qui connaît un petit peu la façon dont ça se passe avec l'ASE, etc., et sachant qu'elles ont été placées pour 6 mois et que nous en sommes au 5e mois, il est logique que, à ce stade-là, on va décider de ce qui va se passer pour les 6 mois.
D'accord. Alors, justement, Juliette, comme vous m'appelez ce soir pour me demander quelques renseignements, d'après ce que j'ai compris, moi, je pense que, comme l'ordonnance qui a été prononcée, c'est une ordonnance qui les place sur 6 mois, comme vous le dites parfaitement, il va y avoir dans un mois, à nouveau, dans le cabinet de la juge des affaires familiales, une décision qui va être prise pour ces deux petites. Et il faut absolument que vous preniez un avocat pour que vous soyez représenté à un moment ou un autre pour pouvoir communiquer à l'ASE et à la juge qu'il y a une solution d'accueil de vos petites filles. Parce qu'en plus, ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir que l'ASE visite votre lieu d'habitation, pouvoir constater qu'il y a une chambre pour les filles, voir comment vous êtes installées. Enfin, vous voyez, ils sont extrêmement prudents et c'est normal puisqu'il s'agit de l'équilibre de deux enfants. Mais il faut, pour moi, dès maintenant que vous preniez un avocat qui puisse gérer ça, parce que c'est leur métier, ils savent comment faire.
D'accord. Comme vous le savez, un avocat, c'est pas donné.
Je sais, Juliette, mais voyez, au bout de 5 mois, vous avez appelé partout et puis personne ne vous répond. Donc,
c'est normal que la justice. Parce que, justement, l'ASE est au courant, la référente sait, la juge sait, puisque j'ai envoyé les lettres recommandées dans lesquelles j'ai dit tout ça, que j'avais l'habitude de partir en vacances avec les petites, qu'elles...
C'est assez incroyable qu'on ne vous ait pas répondu. C'est incroyable.
Tout ça. Et justement, dans les choses qui me sont encore plus pénibles, parce que le foyer, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont bien au foyer, d'après ce que j'entends dire des responsables. Je vois bien que les responsables ont bien compris le caractère des petites et comment elles se sentent et tout ça. Ça, je le sens vraiment bien. Mais quand il y a des petites vacances, même que des week-ends quelquefois, et en particulier les dernières vacances de Pâques ou les vacances de février, alors les vacances de Pâques, elles ne restent plus au foyer, mais elles vont dans une famille d'accueil. Donc là, moi, j'ai été vraiment très choquée parce que je me suis dit, les voilà, elles ont déjà quitté leur papa, leur maman. Bon, c'était sans doute une bonne chose. Pour aller dans un foyer où elles se sont habituées, elles se sont fait des amis, puisque du coup, la grande sœur et la petite sœur ne sont plus dans la même chambre, mais elles sont chacune avec des enfants de leur âge, ce qui est sans doute très bien, tout en pouvant se revoir au moment des repas, etc. Mais là, tout d'un coup, au moment des vacances de Pâques, hop, elles partent là, du coup, toutes les deux seulement, dans une famille où il n'y a visiblement pas d'autres enfants. Et là, les dernières fois, les personnes du foyer m'ont dit que ça ne s'était pas très bien passé entre la grande sœur et la petite sœur, parce que ben, la petite sœur devait sans arrêt capter l'attention de la grande qui
oui, mais de toute façon, je vais vous dire, Juliette, on va conclure là, en fait. Je pense qu'il faut que vous preniez un avocat pour décider de tout ça, en tout cas faire avancer les choses, et puis surtout, il faut que ces deux petites se retrouvent avec leur famille. Et or, leur famille, aujourd'hui, c'est aussi vous, c'est aussi les frères de votre fils. En tout cas, s'il y a des solutions familiales pour accueillir ces petites, ça restera la meilleure solution. Et tel que je vous entends ce soir, je pense que la meilleure solution, s'il y en a une, et que vous êtes celle-là, vos petites filles seront toujours mieux chez vous, avec vous, que dans une famille d'accueil avec des étrangers. Voilà. Et encore une fois, ça n'est pas une manière de... Il y a des familles d'accueil qui sont formidables. Hein. On a souvent évoqué sur cette antenne les familles d'accueil avec des points très positifs, comme parfois, bah, comme dans tout secteur, hein, il y a des gens qui sont bons dans leur secteur, et puis d'autres qui sont moins bons, voire mauvais. Là, il s'agit de vos deux petites filles, et s'il y a une solution que vous les accueillez, il faut vraiment qu'un avocat le fasse valoir auprès de l'ASE, auprès de, en tout cas, de tous les interlocuteurs qui sont liés à la situation de vos petites filles, pour pas qu'on dise après, ben non, on n'était pas au courant que la grand-mère pouvait les accueillir, et puis voilà, vous avez fait, en tout cas, vous avez fait le maximum, je vous le dis.
Oui.
Mais maintenant, il faut, si vous n'avez pas les moyens pour un avocat, vous avez le droit à l'aide juridictionnelle, Juliette.
Oui, alors ça, justement, En ce moment, c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec un avocat gratuit, vous savez, via les mairies.
Oui, d'accord, d'accord. Ah bon ?
Bon, puis non, oui. Non, c'est... Je pense que tout...
Et vous ne disposez pas de moyens ? Vous ne disposez pas de moyens du tout ?
Si, je peux le faire. La seule chose que je n'aime pas faire, c'est dépenser de l'argent pour sans être garantie d'un résultat. Mais là, avec ce que vous venez de me dire, et puis cette idée, effectivement, qu'il faudrait que je me fasse représenter à la prochaine audience.
Ah oui, oui. Que grand-parent, vous avez vraiment des droits par rapport à vos petites filles. Et si vous présentez l'intérêt, justement, de pouvoir les accueillir, un avocat saura mettre en avant tout ça. Carlotta, au 739-21, nous écrit encore ce soir, il nous demande si il ne serait pas bon que vous ayez une conversation quand même avec votre belle-fille, afin de savoir comment tout ça va s'organiser, parce que vous n'êtes pas fâché avec elle, finalement, vous n'avez pas eu d'altercation avec elle.
Elle refuse de me parler.
Refuse de vous parler, d'accord.
Ben, c'est-à-dire, pendant ces temps-là, j'ai envoyé, d'ailleurs, à mon fils aussi un peu, j'ai envoyé des mails, et chaque fois, j'ai envoyé dans un sens de réconciliation, de dire qu'il faut qu'on trouve...
une solution.
Il faut qu'on trouve une solution.
Et pas de réponse.
Pas de réponse.
Ouais. Donc c'est pour ça. Alors maintenant, agissez en tant que grand-mère, c'est-à-dire en tant que filiation de ces petites filles.
Je pense qu'on a été coupé.
Oui. Vous m'entendez ou pas ?
Allô.
Juliette, vous m'entendez ? Vous m'entendez, Juliette ? Allô, Juliette ?
Allô ?
Bon, on n'entend plus Juliette pour l'instant, donc on va essayer de voir si on peut la récupérer, si vous pouvez me tenir au courant, Régie, au moins pour que l'on conclue. En tout cas, Juliette, si vous m'entendez, Juliette ?
Oui, moi je vous entends,
d'accord.
J'ai l'impression que vous n'entendez pas.
Ah, mais si, je vous entends très bien. Moi.
Oui, d'accord, il y a eu un moment où on a été coupé.
Non,
et voilà,
pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, comme il n'y a pas de relation possible avec votre fils et votre belle-fille, il faut maintenant que vous fassiez valoir vos droits pour la prochaine audience, parce que vous avez des droits, et surtout, vous représentez une solution familiale pour vos petites filles. Donc, il faut vraiment que vous puissiez le faire valoir, et vraiment, il faut que vous preniez un avocat. Vraiment.
Bon. Ben, je vais suivre vos conseils.
Et vous savez que vos petites filles ont le droit à des conseils aussi. Elles ont le droit, elles, en tout cas, celles de 12 ans, je suis sûr qu'elles ont le droit à un avocat aussi. Gratuit. Donc ça, c'est votre avocat qui pourra entamer ces démarches-là dès que vous aurez trouvé un avocat.
Oui.
La petite de 12 ans peut demander de venir chez vous avec sa petite sœur. En tout cas...
Oui. Mais là, je crains qu'elle n'ose pas, parce qu'elle a compris que son papa n'y serait sans doute pas favorable.
Oui, donc vous pensez qu'elle préférera le foyer à sa grand-mère ?
Non, je suis...
Ou une famille d'accueil.
Qu'elle aimerait sa grand-mère, mais peut-être qu'elle n'oserait pas le dire. Alors, je vais vous dire aussi la raison pour laquelle, bien que je prends un petit peu, j'ai essayé de ne pas prendre trop de temps, c'est qu'elle ne répond pas à mes messages sur son téléphone portable.
La petite ?
Alors, je sais... Oui.
Parce qu'elle a un téléphone portable.
Mais elle est en celle qui a 12 ans, elle est en 5e maintenant, donc.
Oui, d'accord. Et ne vous répond pas.
Elle a un téléphone, non.
Vous devriez quand même lui envoyer un texto, parce qu'elle le lira, ou vous lui dites que vous êtes prête à l'accueillir chez vous avec sa sœur, qu'elle le sache, parce que.
Oui.
Parce que.
J'ai envoyé des courriers papier. Avec mon téléphone, même une enveloppe timbrée pour la réponse. Si
d'accord.
Parce que c'est la seule chose que j'ai le droit de faire au foyer.
D'accord.
J'ai pas le droit de leur téléphoner, mais j'ai le droit de leur envoyer j'ai envoyé des paquets, des lettres, des cartes postales, des petits cadeaux, voilà.
D'accord. Bah, écoutez, tenez-nous au courant, en tout cas, de la suite des événements, mais vraiment, l'urgence, c'est que vous preniez quelqu'un qui assure vos droits. Hein ?
D'accord.
Vraiment. D'accord, bah, Juliette ?
Merci pour le prêt.
Je vous en prie, passez une bonne soirée et courage à vous. Au revoir.
Au revoir, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est minuit 26 sur Europe 1, c'est votre libre antenne, et nous accueillons Françoise au 39-21. Bonsoir, Françoise.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous, Françoise ?
J'ai fêté mes 50 ans le 23 mai.
D'accord.
Dernier.
Et vous êtes dans quelle région ?
En Île-de-France.
En Île-de-France, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ?
Je viens vers vous parce que le 11 avril dernier, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, j'ai subi des violences de la part de mon mari.
Oui.
Et... ça m'a tellement traumatisée. En fait, il m'a étouffée.
D'accord. Et vous dites pour la première fois, parce qu'il n'avait jamais été violent à votre égard ?
Physiquement, non. Mais psychologiquement et verbalement, oui.
D'accord.
Et je vis avec mon fils de 16 ans et lui.
Oui.
Et donc, ce dimanche-là, mon fils est allé à son... l'entraînement de foot.
Oui.
Et c'est à ce moment-là qu'il a agi. Ça m'a tellement traumatisée que... je ne sais pas où j'en suis. Je vois une psychologue une fois par semaine et...
Je comprends que ça vous ait traumatisé, mais votre mari, vous avez porté plainte ? Que s'est-il passé ?
Absolument, absolument. Absolument, j'ai porté plainte, il est en prison là.
Ah, il est en prison ?
Oui.
Il a été déjà condamné donc, ou il est passé en...
Non, c'était en comparution immédiate.
En comparution immédiate, oui.
Il a eu 3 ans, dont 1 an avec sursis.
Donc, il a été condamné à 2 ans de prison ferme.
C'est ça.
D'accord.
Et je suis complètement détruite.
Oui, oui.
Complètement. C'est-à-dire que j'ai toujours été forte mentalement et tout. Mais le problème, c'est mon problème, c'est qu'il m'a étouffée. J'ai une insuffisance cardiaque. Il le sait et il m'empêchait de respirer.
Est-ce que dans votre tête, Françoise,
oui,
il a essayé de vous tuer?
Oui.
Mmh. C'est ce qui vous perturbe, en fait. C'est la violence de cette pensée-là qui vous hante et qui n'arrive pas à partir, je suppose.
Ça ne part pas. Je n'arrive pas à me défaire de ça. Je peux comprendre qu'on puisse donner une gifle. Enfin, je n'excuse pas la violence du tout.
Mais non, mais c'est inexcusable, de toute façon, Françoise. C'est inexcusable.
Je comprends pas.
Et, Françoise, est-ce que dans votre tête, il est clair que c'est terminé avec cet homme?
Absolument.
D'accord. Parce que ça, c'est absolument important que ça soit très clair. Est-ce qu'il a essayé de rentrer en contact avec vous depuis qu'il est incarcéré?
Alors, il a été en garde à vue le jour même.
Oui.
Et le 13, il y a eu une comparution immédiate devant la juge qui a dit qu'il devait, qu'elle allait l'incarcérer,
oui,
en attendant le jugement. Et on a statué le jugement, en tout cas j'ai reçu un courrier qui stipulait qu'on passerait devant le juge le 7 mai. Alors, j'ai fait appel à mon ami d'enfance le jour de l'agression. Et c'est son mari et elle qui m'ont soutenue.
Oui.
Mes parents, ils vivent en Afrique. Je suis originaire du Cameroun.
D'accord.
Et elle le connaît indépendamment de moi. Ils se sont connus au Cameroun depuis très longtemps. Mais on était jeunes. Moi, je la connais. Je l'ai connue aussi quand on avait 10 ans. Et nos mamans étaient amies. Et donc, elle n'excuse pas son geste. Parce qu'en plus, il lui a écrit en lui disant qu'il m'avait fait du mal et qu'il allait payer. Mais sauf qu'il ne l'a pas reconnu devant les enquêteurs.
Oui.
Ni même devant le juge le jour du procès.
Bah écoutez, ça lui a coûté ce jugement quand même très lourd, hein.
Oui.
Même si ça aurait pu être beaucoup plus lourd si en fait il avait été établi qu'il a essayé de vous tuer, en fait, parce que c'est bien ce qui s'est passé, hein.
Parce qu'en fait il s'est assis sur moi.
Oui.
À partir de mon ventre jusqu'au niveau du cou.
Oui.
Les bras, j'avais des hématomes, des bleus partout.
Mmh.
Et je pense qu'il m'a lâché au moment où il s'est rendu compte que j'étais en train de partir.
Oui.
J'ai cherché, quand il m'a lâché, j'ai cherché mon souffle pendant de longues minutes.
Ben oui, vous m'étonnez.
Étant donné que j'ai une insuffisance cardiaque, et j'ai de l'hypertension aussi. Et j'ai réussi à sortir de la maison, mais il m'a rattrapé par le bras. Et il a essayé de me faire revenir dans l'appartement.
Oui.
Comme il n'y arrivait pas, il m'a poussée. Et je suis tombée tête la première sur le palier.
D'accord.
Sachant qu'il y a 10 ans, j'ai fait un AVC.
Bon, et vous me disiez donc, parce que les violences, elles sont avérées, hein, dans votre histoire, il n'y a même pas...
Oui, de toutes les façons, j'avais des bosses partout, des hématomes, j'étais toute violacée. Et en fait, c'est les voisins qui m'ont sauvée parce que quand j'étais par terre sur le palier, il m'a prise par les chevilles. Il me traînait au sol pour me ramener dans l'appartement. Et c'est à ce moment-là que les voisins sont intervenus et ils l'ont vu faire.
Oui, oui. Et puis, vous ne savez pas... Vous ne savez pas ce qui se serait passé ensuite si les voisins n'étaient pas sortis, hein?
C'est ça. Si j'étais retournée dans la maison, je pense que je ne serais plus là. Mmh.
Alors, vous me disiez que vous voyez un thérapeute depuis parce que c'est difficile. Hein, on peut le comprendre.
Mais c'est elle qui m'aide, en fait.
Oui.
Je suis entourée d'associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et tout ça. Et alors là, je dois quitter l'appartement. On est en train de chercher un appartement.
Oui.
Mais il a fait des démarches depuis la prison pour résilier le bail. Il a résilié Internet, des choses comme ça.
Oui, c'est un furieux, lui. Hein. Il laisse rien au hasard.
Je me demande... Je comprends pas ce qui lui passe par la tête. Je ne l'excuse pas. Je lui ai pardonné depuis ce jour-là. J'aurais juste voulu qu'il me demande pardon.
Et il ne vous a pas demandé pardon ?
Non, pas du tout. Au tribunal, les photos... Parce que j'ai été aux UMJ à Créteil. Le médecin légiste a fait des photos. J'avais des bosses de 9 cm et tout ça, des hématomes. Et il persistait à dire devant la juge...
Qu'il n'avait rien fait, que vous étiez fait ça toute
non,
seule.
Non, que je m'étais fait ça moi-même en me croisant, en croisant mes bras sur la poitrine. Parce que comme j'ai fait un AVC, je suis reconnue handicapée, travailleur handicapé. Je suis aide-soignante en oncologie au CHUC de Créteil. Et donc... Il dit qu'étant donné que j'ai fait un AVC, mon bras gauche est souvent fatigué, donc je garde cette séquelle-là.
Mais je vais vous dire, Françoise,
oui.
Il faut que ce qu'il dit et tout ce qu'il nie, il faut que ça ne vous touche pas. Vous, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez exactement ce qui s'est passé.
Ah oui.
Et ça, alors vous me dites que vous lui avez pardonné. Expliquez-moi ça. Vous avez quoi ?
Je lui ai pardonné parce que, en fait, j'ai la foi. Donc,
oui.
Je lui ai pardonné, mais je n'excuse pas ce qu'il a fait.
D'accord. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec lui dès qu'il va sortir de prison.
Oh, non.
D'accord.
Non, c'est terminé.
D'accord.
Pour moi, c'est terminé.
C'est terminé.
En fait,
d'accord.
Putain, j'ai juste besoin de parler et l'objet de mon appel aujourd'hui est que sa famille me harcèle parce que quand je les ai appelés pour leur dire ce qui s'était passé, ils ont dit « Oh, il ne peut pas faire ça, c'est pas un violent et tout. Non, quoi. Non, il l'a fait. Je ne me suis pas fait mal toute seule. Je ne me suis pas fait mal toute seule. Physiquement, il ne m'a jamais brutalisée. Mais psychologiquement et verbalement, il n'a pas cessé de le faire depuis qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je me suis sentie coupable quelque part d'avoir amené mon fils dans cette maison.
Parce que ce n'est pas son fils à lui.
J'ai pas d'enfant avec lui.
D'accord.
Il a été marié précédemment.
Oui.
Et il a eu 3 enfants et ça s'est terminé parce qu'apparemment il y avait ce genre de choses.
D'accord. Bon, en tout
cas, je ne l'ai su que plus tard.
Françoise, il faut que de toute façon vous coupiez tout ce qui a une relation avec cet homme. Ça veut dire que même la famille, elle ne doit pas pouvoir vous appeler, elle ne doit pas pouvoir venir vous voir. Vous allez quitter cet appartement bientôt.
Si, je vais quitter l'appartement bientôt. Mais le problème, en fait, c'est que depuis un moment, ils me harcèlent parce qu'ils veulent récupérer ses affaires. Alors, je ne sais pas quoi faire. Mon avocat m'a appelé hier pour me dire de leur donner tout ce qu'ils veulent. Moi, je pensais qu'ils voulaient des vêtements parce que j'ai toujours donné des vêtements pour qu'ils se changent
oui,
et tout ça.
Oui. Et qu'est-ce qu'ils veulent alors ?
ils veulent les papiers, enfin les documents.
Oui, bah, vous allez leur donner. Vous allez leur donner.
Ah oui, 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 oui.
De toute façon, je vais vous dire.
Je suis en train de faire le tri voilà. Parce que je me suis rendu compte. J'ai jamais fouillé dans ses affaires, mais là, depuis qu'il est en prison, j'ai perdu certains documents que je retrouve dans ses affaires qu'il avait cachés.
D'accord. Donc, ce qu'il faut, de toute façon, Françoise, c'est que vous donnez ses affaires à sa famille, vous résiliez le bail de cet appartement.
Il l'avait déjà fait, mais
bon, bah, très bien.
De toutes les façons, le bailleur m'a dit qu'ils ne tiendront pas compte de son courrier, parce que en fait, étant donné qu'il a des dettes locatives, il veut se désolidariser du bail. Et moi, je ne suis pas sur le bail, moi.
Eh ben, très bien. Comme ça, vous allez pouvoir recommencer dans un nouvel appartement. Vous allez vous éloigner de cette région, je suppose. En tout cas, vous allez peut-être rester dans la région parisienne.
Oui, je ne vais pas de la région, peut-être, mais de la ville, oui.
Voilà. Et puis, vous allez partir avec votre fils. Hein. Vous avez une fille aussi, me semble-t-il.
Oui, j'ai une fille qui a 22 ans.
D'accord. Mais qui n'habite pas avec vous. Non. Donc, vous allez recommencer votre vie, tous les deux, calmement, hein, tranquillement, et puis donnez-leur les affaires, parce que, de toute façon, vous ne devez plus avoir la moindre relation avec des personnes qui ont une relation avec lui. Il ne doit plus pouvoir vous toucher, cet homme, vous voyez ? Il ne doit plus pouvoir vous... Même avoir... il n'a pas à vous parler. Dans votre tête, il faut que ça soit clair, François, c'est que il n'a pas le droit de vous adresser la parole. Il a commis quelque chose d'irréversible. Même si vous lui pardonnez, parce que vous avez la foi, c'est très bien de faire ce chemin, Françoise. Mais vous lui avez pardonné, mais lui, c'est terminé. Il n'appartient plus à votre monde. Il est passé de l'autre côté. Là où, pour vous, il n'existe plus. D'accord ?
Oui.
Il faut vraiment que ça soit très clair dans votre tête et que vous ne fassiez pas de sentiments par rapport à la famille qui vous demande ceci, cela. Vous donnez ce qu'il y a à donner, parce que vous êtes une honnête femme. Et puis, surtout, vous veillez bien à ce qu'il ne reste pas un papier qui traîne ou quoi que ce soit pour qu'il vienne vous embêter. Et puis, deux ans, ça passe vite, hein, avec les remises de peine et tout ça.
Je ne suis même pas sûr qu'il passera deux ans.
Non, non, ça je vous le confirme, il ne fera pas deux ans. Mais il faut vraiment que vous fassiez les choses bien et en sorte qu'il ne sache pas où vous habitiez. Enfin, vous voyez, que vous partiez.
Mais il sait où je travaille.
Ouais, c'est ça le problème. Bon, mais de toute façon, on n'en est pas dans un an et on va dire un an et deux mois, parce qu'il y a de grandes chances que sur les 24 mois, il n'en fasse que 12 ou 14 avec les remises de peine. Mais pour le moment, il faut, comme je dis souvent, un jour à la fois. Il faut que vous agissiez là de ce qui va, tout ce qui va vous alléger et vous éloigner de lui dans les jours qui viennent. Il faut que vous le fassiez parce que votre fils il a 16 ans et puis il a besoin d'une maman qui récupère ses esprits, qui ait une vie équilibrée. Vous avez du travail, vous avez sans doute des amis en plus avec le métier que vous faites, donc vous devez être entouré. Donc il faut passer à autre chose. Et je pense que votre thérapeute vous aide à passer à autre chose, non ?
Elle m'aide pas mal.
Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de reparler avec moi. Si vous avez un petit coup d'angoisse et tout, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver.
D'accord, Olivier. D'accord. Je vous remercie.
Et soyez courageuse, mais vous êtes courageuse. Je le sens.
Merci, Olivier. Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Merci, au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est minuit 42 sur Europe 1 et nous accueillons Michel au 39-21. Bonsoir Michel.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Michel ?
De la région Rhône-Alpes.
De la région Rhône-Alpes, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
Alors j'ai suivi pendant quelque temps l'histoire de Valérie et Jeannine.
D'accord.
Et donc, au bout d'un certain temps, ça m'a rappelé, enfin, ce que je dis n'engage que moi.
D'accord.
Mais j'ai pensé à ce qu'a vécu ma meilleure amie. Alors, ça a été bref pour elle, mais elle a vécu quelque chose et j'ai fait un rapprochement avec ce que vivent ces deux femmes, à savoir que c'est une amie que j'ai depuis 30 ans, donc on se connaît, comme j'ai dit à Florian, on se connaît par cœur.
Oui.
Elle m'a aidée dans des moments terribles de ma vie, je l'ai aidée dans des moments terribles de la sienne, je me suis occupée de son fils pendant 15 ans, enfin bon.
Donc, vous êtes très liées toutes les deux.
Extrêmement. Et donc, il y a quelques années, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, je crois, elle avait une belle-mère. Et cette belle-mère, bah, malheureusement, était atteinte de l'Alzheimer.
Oui.
Âgée, très âgée. Alors, dans un premier temps, ils l'ont mise dans une maison. Mais c'était invivable. D'abord parce qu'elle n'était pas facile. Et puis, les conditions... n'était pas top. Donc, ils ont, avec son mari, qui est son fils unique, c'est important, ils ont décidé de la mettre chez eux, de la prendre à domicile, d'adapter une chambre, alors lit médicalisé, infirmière.
Avec son mari,
avec son mari,
le mari de votre ami qui est son seul enfant, c'est ça ?
Son seul fils.
D'accord, très bien.
Et elle habite à 10 minutes de chez moi. Donc, ils avaient aménagé tout ça pour elle. Et elle s'en occupait avec donc, des infirmières et elle-même jour et nuit. Hein. Ils étaient à sa disposition jour et nuit. Bien sûr, le lit médicalisé, il y avait des barreaux autour parce qu'elle était très agitée. Et pour éviter qu'elle ne tombe, il y avait des barreaux et, pour la protéger. Alors, au début, ça se passait... bien, entre guillemets, mais bon, les infirmières venaient. Et puis, assez rapidement, un jour, au bout de quelques mois, mais ça a été très rapide, mon ami vient, débarque chez moi et me dit « Je suis convoquée au tribunal pour ma belle-mère. » Ah, je lui dis « Pourquoi ?» Elle dit « Je ne sais pas. » Donc, elle va au tribunal et on lui dit simplement que... on l'accuse de maltraitance.
D'accord.
Parce qu'on a relevé des bleus, des coups. Elle est couverte de bleus. Alors, mon amie tombe par terre. Elle dit, c'est pas possible. Ma belle-mère bouge énormément. Elle a des crises. Donc, elle est très maigre. Alors, vous pouvez imaginer une personne âgée qui se cogne toutes, des fois, ça peut durer très longtemps. Elle crie, elle se... qu'est-ce qui se passe ? Le résultat, ce sont des bleus. On ne l'écoute pas, hein. On met en doute.
Et alors,
Le tribunal, hein.
D'accord.
Tout l'assistante sociale et tout.
D'accord.
Toute la sainte famille. Donc, on ne l'écoute pas. Enfin, on lui fait comprendre que, bon, ça va, quoi. On voudrait bien la croire, mais... Et donc, elle demande, mais qui est-ce qui a raconté ça ? Donc, c'est une dénonciation, hein, on l'a... Elle dit, mais de qui ça vient ? Et on lui dit, on ne peut pas vous le dire. Et pour le savoir, prenez un avocat. Donc, elle prend un avocat. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a de gros moyens. Donc, elle prend un avocat et elle apprend que c'est une des infirmières qui l'a dénoncée.
Mmh.
Donc, c'est absolument faux. Mais ça ne fait rien. Elle est dénoncée. Et alors là, ils commencent à chercher. Alors, on lui dit, on commence par lui dire, alors, on lui demande les papiers. La gestion de comment elle gère l'argent de sa belle-mère, parce qu'il faut savoir qu'il y a un énorme patrimoine immobilier. Et donc, quand je dis énorme, c'est vraiment énorme.
D'accord.
Et donc, alors on lui demande des papiers, ils apportent des papiers, tout ce qu'on leur demande, et ils ont trouvé quelque chose de magique. Son fils fait participer sa mère un petit peu aux frais du chauffage, parce qu'il faut énormément chauffer pour elle. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Et ça, c'est une grosse faute.
C'est donc, une grosse faute, c'est-à-dire.
Ah oui, oui, oui. Ah ben, on lui dit que c'est ça, ça se fait pas, que c'est, il profite de sa mère.
Ah oui, enfin, d'accord. D'accord. Il profite d'une personne en situation de faiblesse.
En situation de faiblesse.
Ouais.
Mais ce qu'ils ont oublié de considérer, c'est que la maman, donc la mère de la belle-mère de mon ami, a fait donation à son fils unique de tous ses biens.
Mmh.
Elle a payé ses droits, donc il est l'unique héritier. Et alors il leur a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ma mère a besoin de... Effectivement, c'est une maison qui demande beaucoup de chauffage, et de faire participer sa mère, quand on sait ce qu'elle a au chauffage, il n'y a rien de criminel. Et puis, comme il a dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis son héritier, je suis le seul héritier. Alors on l'a à moitié écouté, ils n'ont pas pu le nier, ça, puisqu'ils avaient les papiers, les preuves. Mais quand même, il fallait qu'il ait fauté. Hein, c'était pas bien de...
En tout cas, il y avait une suspicion de ça. Il était suspecté d'avoir...
De profiter de sa mère.
Voilà, de profiter de sa mère.
Mais il n'y avait que l'histoire du chauffage. Hein. C'était... Et puis peut-être des vêtements, et encore, vous savez... Alzheimer à 94 ans, oui. Dans un lit médicalisé.
Et puis je pense qu'il accueillait sa maman, chez lui gracieusement pour tout le reste. Donc
bien sûr.
Donc bon, oui.
Évidemment, il avait besoin de rien, hein. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Et donc l'avocate lui a dit que c'était malgré tout, alors que c'était en fait quelque chose de très simple. Elle lui a dit oui, Le problème, le vrai problème, c'est qu'il y a un patrimoine qui est très tentant. Et quand on a un patrimoine immobilier comme ça, et qu'on peut trouver une faute, parce que c'est ça, quand on peut accuser quelqu'un de maltraitance dans ce cas-là,
oui.
C'est tout de suite. D'ailleurs, ils en ont parlé rapidement, c'est la mise sous tutelle. Et après, c'est l'UDAF de la région qui gère.
Mmh. D'accord. L'UDAF, qui est, précisez-le, hein, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est l'UDAF.
Je ne sais pas exactement, c'est l'Union. Enfin, je devrais savoir, parce que mon fils était sous juratelle. C'est l'Union...
Des affaires familiales, non? Ou
C'est l'administration des... C'est un organisme qui administre les biens... Des tuteurs, c'est... Il y a le... Oui, c'est ça.
D'accord.
Les tuteurs et les... Ah, les tutelles et les curatelles.
D'accord. On a eu Jean hier soir, hein, qui nous parlait de sa femme, qu'il n'a plus vue depuis 6 ans, qui est administrée par un tuteur qui l'a mis dehors et qui l'a accusé au début de choses dont il a été totalement blanchi. Jean nous parlait de cela hier soir. Il arrive parfois que des tuteurs outrepassent leur fonction, hein, et leur pouvoir.
Moi, je peux vous dire que j'ai vécu, mon fils a été mis sous tutelle pour prodigalité, parce qu'il a dilapidé l'héritage de son père et de sa grand-mère en moins de temps qu'il faut pour le dire. Et j'ai vécu l'enfer pendant plusieurs années. Ça m'a amenée à la dépression, mais je m'en suis sortie. J'avais des arguments de poids, mais ça a été, je dis bien, une bataille pendant 5 ans. Pendant 5 années, j'ai été harcelée, j'ai été accusée, j'ai vécu un véritable enfer.
De la part de tuteurs aussi?
De l'UDAF.
De l'UDAF, d'accord.
De la région où était mon fils, et c'est une histoire de fou, et j'ai été énormément aidée, heureusement, par un commissaire, par des gens qui ont compris, qui eux avaient tout de suite compris, parce que mon fils avait eu un bel héritage, mais lui l'avait dilapidé, donc il fallait trouver un moyen de récupérer, c'était en m'accusant. Et là, j'ai vécu des choses...
Mais alors, vous qui avez vécu ça, dites-nous, quel est l'intérêt, en fait? C'est de prendre possession de biens qui... Enfin, c'est quoi l'intérêt de ce type de démarche?
Bien, c'est de gérer à la place des parents.
Oui.
Et puis, dans la mesure du possible, de faire durer, de se servir. Je dois dire qu'il y a des UDAP qui sont extrêmement bien. J'en connais. Mais par contre, moi, je n'ai pas eu de chance, mon ami non plus. Et l'intérêt, c'est tout simplement de s'approprier le... C'est une façon de s'approprier les biens. Mon ami, je vais dire quelque chose qui est un petit peu dur, mais qui est réel. Sa belle-mère est partie quelques mois après, très peu de temps après, à 96 ans.
Oui.
Mais si elle avait eu, par exemple, je ne sais pas moi, je vais dire, si elle avait eu son Alzheimer à 50 ans et qu'on l'avait mis sous tutelle, eh ben ça aurait duré 46 ans.
Oui, d'accord. Et ces biens auraient été administrés pendant 46 ans par des gens qui en avaient décidé ainsi.
Voilà, qui auraient fait...
Ça fait peur, hein, tout ça, ça fait peur.
Et c'est pour ça qu'il faut que, quand les gens ont encore leur tête, qu'ils prennent toutes leurs dispositions. Moi, j'ai à peu près ma tête, mais j'ai pris des dispositions très dures envers mon fils, parce que ce qu'il a fait est ignoble. Mais il a été manipulé.
Mais dès qu'il y a des histoires d'argent comme ça, de succession, le mal, il peut venir de partout.
C'est une horreur.
Ouais.
Vous savez, j'ai juste un exemple à vous donner. Mon fils s'était fait donner il était sous ma tutelle dans un premier temps, ce qui était normal. Il était mineur quand son père est décédé. On avait divorcé, donc il était sous ma tutelle.
Oui, comme la loi le veut.
Voilà, c'était Monsieur X sous la tutelle de Madame.
Oui.
Il va à la banque. Et à la banque, c'est un garçon extrêmement intelligent, 1m90, très impressionnant. Et donc, il va à la banque où j'avais un compte depuis 20 ans. Donc, je lui avais ouvert un compte dans cette même banque. Et il se fait donner de l'argent en carte espèce. C'est-à-dire, il rentre et comme il n'a pas de compte, lui, parce que le compte qu'il a, en fait, c'est le mien. Enfin, c'est son compte, mais à mon nom.
Oui.
Mais il peut retirer... Alors, il est mineur, je dis bien, il est mineur. Et on lui laisse faire des prélèvements par carte espèce. Alors, il venait là où j'habite, en Rhône-Alpes, à Valence, je vais vous dire la ville.
Oui.
Il faisait un retrait de 700 euros. Il repartait à Saint-Étienne où il habitait. Il refaisait un prélèvement carte espèce de 800 euros. Il revenait la semaine suivante, il retirait 500 euros, il repartait à Saint-Étienne, il retirait 800 euros. Et puis en tout, il a dû retirer 7-8 000 euros jusqu'à ce que je m'en rende compte, parce qu'il détournait les relevés de compte, alors je ne comprenais pas. Eh bien, quand il a été mis sous curatelle, moi j'ai supplié, j'ai tous les courriers en recommandé, accusé de réception, j'ai prévenu 3 procureurs. Tout ce qui s'est passé après est arrivé. Il était sous l'emprise d'une fille qu'il a épousée, dont il a divorcé après avoir l'avoir amené à l'hôpital. Et donc j'ai demandé à la BNP, parce que cela j'ai toujours pas digéré. Je leur ai demandé de me donner les relevés de compte. Ils n'ont jamais accepté. Jamais. Donc, si vous voulez, c'est resté en suspens. J'étais accusée, moi, d'avoir fait ces retraits.
D'accord.
C'était moi l'accusée. Alors, j'ai eu une avocate de l'UDAF.
Il nous reste une minute, Michel.
Oui, j'ai eu une avocate de l'UDAF un gras de papier, comme m'a dit mon autre avocat. J'ai dû changer d'avocat, en prendre un formidable à Lyon. Et là, ça a été réglé très vite, parce qu'il a fait avouer à mon fils que c'était lui qui s'était servi. Il me l'a fait par écrit. Il a fait une déclaration par écrit en reconnaissant ce qu'il avait fait. Et là, il a fallu après que j'écrive des lettres un petit peu partout, que j'aille voir les commissaires, que je... Mais j'ai réussi à être, j'allais dire, blanchie. Même si je suis certaine que des gens pensent encore que c'est moi qui me suis servie, alors que c'était lui.
En tout cas, en vous écoutant, on voit combien on peut, quand on a affaire à ce genre d'organisme, on peut se retrouver très vite embringué dans des histoires pas possibles. Ça, c'est certain. En vous écoutant, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, Michel. Merci en tout cas de votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Michel.
Que les gens prennent leurs précautions, surtout.
D'accord. Bah, merci mille fois pour votre témoignage et puis n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez vous êtes inspiré par un autre témoignage, d'accord ?
Oui, j'aurai quelque chose. Oui.
Eh ben écoutez, quand vous voulez. Je vous embrasse et passez une bonne soirée, Michel. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Demain, à partir de 22h30, on se retrouve et nous allons passer 2h30 ensemble. Alors, que vous dire que nous nous réjouissons de passer ces 2h30 avec vous. En attendant, dormez bien. N'oubliez pas de bien respirer, de bien inspirer et expirer. Faites de beaux rêves. Et puis, on se retrouve donc à 22h30 demain. Salut.